Alors, monsieur Dominitrou, merci d'accepter de participer à cet atelier. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec la fonction que vous occupez dans l'établissement?
Oui, alors du coup moi je suis Clément de Bonitrou. Je suis arrivé au sein de l'établissement le 4 janvier 2021. À la base voilà, pour divers remplacements en tant qu'ergothérapeute. Depuis un peu plus d'un an, j'ai exercé sur le poste d'ergothérapeute et sur différentes missions. J'ai commencé où je participais à des consultations sur l'acquisition de fauteuils roulants électriques. C'était ma première activité ici, où on recevait des patients avec le médecin rééducateur, puis par la suite où on faisait des essais à domicile. À la suite de ça, donc ça a duré à peu près un mois et demi, 2 mois. Ensuite, j'étais plus sur le plateau technique, plus dans le soin, toujours en tant qu'ergothérapeute au sein de l'hôpital de jour et par moments sur de l'hospitalisation complète. Donc c'était plus sur l'aspect rééducatif. Et là, depuis le mois de septembre 2021 jusqu'à présent, j'ai intégré l'équipe EMIPAS 23, donc qui assure le suivi de personnes qui ont été victimes d'un AVC, où on se rend au domicile où il y a une évaluation des besoins avec les différents professionnels qui composent l'équipe. Et après, voilà les choses qui sont mises en œuvre à la suite d'une évaluation initiale.
Oui, on a eu l'occasion de recevoir votre collègue tout à l'heure là sur ce point. À quel moment entrez-vous en relation avec les patients par rapport à votre travail?
Alors, par rapport à mon poste actuel, en fait, tout va dépendre de comment on va se faire le suivi. Ça peut être, donc on reçoit une demande soit par le patient lui-même, soit par le centre hospitalier ou n'importe qui. À la suite de ça, on contacte le patient. Alors ça peut être moi-même, ça peut être une de mes collègues. Donc le premier contact peut se faire au téléphone pour présenter l'équipe, pour leur expliquer ce qu'on peut leur proposer et les informer de notre venue et s'ils sont d'accord. Après, à d'autres moments, ça peut être la première rencontre peut se faire au domicile une fois que la visite a été planifiée. Et généralement, voilà, c'est les deux grands axes de rencontre avec les usagers.
Comment vous présentez votre intervention auprès des patients?
Alors,
Parce que tout le monde ne connaît pas
non, tout le monde ne connaît pas. C'est vrai que pour moi, c'est encore frais, hein. Je suis jeune diplômé de fin 2020, ayant intégré l'équipe EMIPAS en septembre 2021, comme je vous disais. Je le représente comme une équipe mobile qui se déplace sur l'ensemble du territoire, qui intervient auprès de personnes ayant été victimes d'un AVC, que ce soit récent ou ancien, et qu'on est là voilà, pour évaluer les besoins de leurs besoins au domicile, dans un but voilà, de maintenir au domicile la personne et si possible d'améliorer leur situation. Quand je les ai au téléphone pour la première fois, je leur présente aussi l'ensemble de l'équipe, les différentes missions de chacun, et puis nos missions plus globales. Quand je les rencontre au domicile sans avoir eu ce contact téléphonique auparavant, alors généralement on est par binôme, donc l'un ou l'autre du binôme resitue les missions de l'équipe, et après on se présente chacun plus spécifiquement à travers nos missions.
Lorsque vous les rencontrez, donc ils sont déjà en voie ils ont déjà bénéficié de soins, ils sont déjà même avancés, ils sont dans la période de réhabilitation à leur cadre et à leur. Comment est-ce qu'ils présentent leurs problèmes et de l'accident médical qu'ils ont eu?
Alors,
Comment ils en parlent?
pour l'expérience que j'en ai, généralement, ils présentent ça comme quelque chose de soudain, comme un grand changement dans leur vie et dans leurs habitudes de vie. Quelque chose voilà, qui était imprévisible et puis qui leur est un petit peu tombé dessus du jour au lendemain, avec tous les changements que ça a pu occasionner pour eux, l'incertitude de pouvoir pour certains rentrer au domicile quand ils sont passés par un service d'hospitalisation aiguë, puis après de longues semaines, voire des mois de rééducation. Après, c'est vrai que certaines des personnes qu'on rencontre passent moins de temps en hospitalisation. On a vraiment chaque situation à part, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pu passer parfois jusqu'à 4, 5, 6 mois en hospitalisation, et d'autres personnes qui sont restées que quelques jours aux urgences ou dans les services de cardiologie ou autres à Guéret, par exemple. C'est, oui, la vision qu'ils ont le plus fréquemment, alors surtout quand il y a des séquelles qui restent après l'AVC, c'est vraiment un grand chambardement, et puis de devoir se réapproprier le quotidien, réapprendre à vivre au domicile. Après, c'est vrai que certaines personnes qu'on rencontre ont moins de facilité à exprimer ce qui va et ce qui va pas. C'est vrai que quand on se rend au domicile, il y a aussi le fait de venir chez eux dans leur intimité. Alors, ce qui peut avoir, je pense, des points positifs et des fois un peu plus négatifs. Pour certaines personnes, ça peut être rassurant, voilà, qu'on vienne à domicile, qu'ils soient dans leur dans un environnement qu'ils connaissent. Pour d'autres, c'est plus perçu. Alors, cet aspect-là, c'est plus quand on les appelle c'est plus une intrusion dans leur intimité, ce qui leur reste c'est chez eux, et après, voilà, avoir eu plusieurs rendez-vous médicaux, ça peut être compliqué de rajouter quelque chose derrière, un passage supplémentaire, même si, voilà, ils comprennent que c'est pour leur bien et que c'est pour leur apporter quelque chose. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là.
Oui. Votre collègue évoquait la difficulté de certains, le refus chez certains, justement, de cette intrusion dans l'intimité. Et néanmoins, vous, vous leur apportez une facilitation au niveau pratique, au niveau du quotidien. On peut penser que vous pourriez être mieux accueilli.
Ouais. C'est, alors, pour beaucoup, c'est perçu comme ça. Enfin, moi, c'est la vision que j'en ai. Où ils peuvent être en difficulté, des choses qui n'ont pas été prévues pour justement ce retour à domicile, et avec, que ce soit en termes de démarches administratives, pour mettre en place les choses au quotidien, par rapport à l'AVC en lui-même, où la personne peut avoir fait un AVC, et finalement, on lui dit, vous rentrez chez vous, mais sans plus d'explications derrière, sans être accompagné. Et le fait d'avoir, voilà, une présence et puis notre passage derrière, ça peut avoir ce côté rassurant. Par contre, il peut y avoir tout l'inverse, avec des personnes qui voient ça vraiment comme une intrusion, et je pense avec aussi la volonté d'avoir une coupure avec les, enfin, pas vraiment une coupure, mais à la suite de multiples rendez-vous, que ce soit médicaux ou autres, suite à la problématique de santé, pas vouloir surajouter une visite par-dessus. J'ai l'exemple de ce matin même, où j'ai contacté une dame qui a fait un AVC tout récemment, au mois de mars, où voilà, je lui ai proposé notre passage au mois de mai, et où elle a refusé parce qu'elle avait l'impression que les choses se multipliaient. Alors, elle a été surprise par la soudaineté de l'accident, hein, de l'AVC. Elle a bien récupéré à la suite de son hospitalisation, avec quasiment pas de séquelles du tout à ce jour. Et voilà, elle comprenait pas forcément pourquoi on l'appelait, elle avait pas forcément envie de nous répondre, et du coup, elle a refusé notre passage.
Comment vivent-ils, vous qui êtes au plus près de cette restauration de du rapport au quotidien, à la réalité, comment est-ce qu'ils vivent cette limite qui les frappe d'un coup ? qu'est-ce qu'ils en... comment ils l'expriment?
Alors, c'est...
Donc, il y a l'injustice, mais...
L'injustice de savoir pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, mais... avec certaines personnes qui ne savent pas pourquoi c'est arrivé. Il y a des personnes, voilà, ils comprennent les causes, les facteurs de risque et ce qui a pu engendrer cet AVC-là. Et ce qui peut arriver aussi, c'est voilà, des difficultés à accepter la problématique, une baisse au niveau du moral. Avec, voilà, y a ça qui m'est arrivé dans la vie, il y a l'AVC qui est survenu sans que j'y sois préparé. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut arriver? Est-ce que l'AVC peut revenir aussi? Est-ce qu'il peut y avoir une rechute? La grande majorité des personnes qu'on rencontre aussi sont très fatigables. Avec, on le sent au niveau de certains entretiens quand on les rencontre pour la première fois, où c'est vrai qu'en fin d'entretien, il peut y avoir des moments où vraiment ils ont des difficultés pour suivre la conversation, au niveau attentionnel, où ils peuvent plus trop savoir où on en est. Après, voilà, ça dépend vraiment de chaque situation.
Oui, de chacun, bien sûr. Oui.
Et de comment va être la personne.
Oui, ça peut avoir un effet dépressif, donc de dépression. Mmh. Vous avez utilisé le mot pour certains. Parce que tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir un patient qui est venu témoigner, qui était un battant. Et donc, lui, il était vraiment dans la réactivité. Mais vous...
C'est vrai que moi, j'ai pris plus l'aspect, l'aspect baisse de morale, l'aspect un peu dépressif. Après, c'est vrai qu'il y a des situations où on rencontre, où les gens, voilà, suite à notre venue, sont dans la volonté de mettre des choses en place, sont dans la volonté de s'en sortir, de récupérer suite à l'AVC, de mettre des choses en place au domicile et puis en termes de rééducation aussi. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect où il y a des personnes qui vont pas forcément être... être très avenant, plus attentiste, et où il y a d'autres personnes qui vont plus, plus proposer, plus être acteur de leurs soins.
Le fait que vous interveniez à domicile, vous percevez une incidence sur la vie familiale quand il y a famille, quand il y a au moins couple, ou... C'est quelque chose qu'on n'a pas éclairé, ça, encore, là. De voir comment c'est vécu au niveau...
Au niveau des proches, par rapport
au niveau des proches, oui.
Ouais, c'est une réelle... Enfin, pour moi, ça... De ce que j'ai pu vivre depuis... au domicile des patients, c'est vrai que ça... Ça a un impact sur la vie de couple, sur la vie de famille, avec... Mais comme je disais, des fois, des familles qui sont, dans un premier temps, très contents que leurs proches rentrent à domicile... Sauf qu'il se rend compte que le proche a changé, qu'ils n'étaient pas préparés à ça non plus, qu'il peut y avoir des difficultés sur tous les actes un peu du quotidien, que eux, leur rôle premier, c'est d'être un proche de la personne, c'est leur, que ce soit leur rôle de conjoint, leur rôle d'enfant, leur rôle de parent, et qu'ils ne sont pas là forcément à la base pour être aidant suite à la problématique de santé. Ils ne sont pas là pour être le soignant de leurs proches. Et des fois, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué aussi quand la personne va avoir des troubles de la communication, par exemple, où le proche ne va pas comprendre pourquoi là, il n'arrive pas à me répondre, pourquoi sa voix a changé. Parce que là... Nous, quand on rencontre certaines personnes, en soi, voilà, on remarque qu'il y a des troubles de la communication, des troubles du langage, mais on arrive à comprendre la personne. Et la façon dont elle parle, c'est pas quelque chose qui va, dans un premier temps, nous choquer. Mais c'est vrai que, par exemple, la femme du monsieur va nous dire, Oui, mais moi, ça, ce qui me gêne le plus, c'est que mon mari ne parle pas comme avant. C'est pas la même intonation, c'est pas le même volume de parole, c'est toutes ces choses-là. Et qui sont ben, parfois plus difficiles à accepter pour le proche que pour la personne
Oui,
elle-même.
ça rend des habitudes, surtout la voix. Effectivement, on n'y pense pas, mais c'est quand même une reconnaissance particulière, l'échange verbal.
C'est vrai que par moments, ça peut être même plus difficile à accepter ce changement au niveau de la voix qu'un membre qui va être un membre, un bras, une jambe qui va être lésée et où il va y avoir des difficultés. Après, le fait d'intervenir au domicile, c'est aussi facilitant pour avoir vécu les deux aspects, l'intervention ici en rééducation auprès de personnes ayant vécu un AVC, et là sur l'équipe EMIPAS, l'intervention à la suite au domicile, le fait de voir l'environnement de la personne, se rendre compte des difficultés qu'il y a au niveau physique, au niveau cognitif, en lien avec l'environnement. Ça a aussi ce côté facilitant de voir les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes au quotidien. Et eux-mêmes, il y a des personnes qui sont ici, qui pensent voilà, qu'au domicile tout va bien se passer et qu'il va pas y avoir de difficultés, et que quelques jours, quelques semaines après, se rendent compte que ben, finalement c'est pas si simple que ça. Et puis inversement, des personnes qui sont en rééducation ici et qui pensent que pour le retour à domicile, ça va être compliqué et qui finalement, ça se passe bien.
Il est prévu dans votre mission d'équipe pluridisciplinaire de l'accompagnement des proches. Oui, il y a
Oui.
une.
Nous,
C'est dans votre cahier des charges.
quand on intervient au domicile, c'est ce que je leur dis aussi quand je les ai au téléphone, généralement, c'est qu'on n'intervient pas pour l'AVC, on intervient vraiment pour la personne, son environnement, que ce soit humain
Humain ou matériel.
ou matériel. Ce qu'on propose aussi, c'est des temps d'éducation thérapeutique du patient. Je ne sais pas si ma collègue vous l'a évoqué, où on a des sessions avec plusieurs personnes qui ont été victimes d'un AVC. Alors on se rapproche le plus possible des personnes. Là, dernièrement, on était à Guéret avec des personnes qui habitaient autour, où on les a fait venir sur un lieu dans une salle pour évoquer du coup les problématiques liées à l'AVC, où chacun a pu échanger. Les proches étaient conviés. Si les personnes voulaient venir avec leurs proches, il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Et le but de ces ateliers-là, c'était des temps d'échange entre eux sur différents thèmes. Il y avait voilà sur connaître, comprendre ce qu'est l'AVC, les facteurs de risque, la fatigue, l'activité physique après l'AVC, enfin voilà, sur plein de thèmes. Et nous, on n'est pas là pour leur donner un cours magistral en fait. C'est vraiment, on est là en tant qu'animateur. Les séances, c'est vraiment eux qui les construisent à travers leur vécu et leurs problématiques et les solutions que chacun a pu trouver aussi. Et
C'est un partage
c'est un
d'expérience.
partage d'expérience, ouais.
Ça recouvre d'autres choses, l'éducation, comme vous l'appelez,
L'éducation thérapeutique.
l'éducation thérapeutique, voilà, oui.
C'est-à-dire que.
Je ne sais pas, donc il y a ces groupes avec ces échanges, il y a d'autres formes, ça prend d'autres formes, l'éducation thérapeutique.
En fait, avant de venir aux ateliers, nous on a un temps quand on les rencontre, voilà, généralement pour la première fois. Des fois, on revient pour avoir ce temps-là. Ou au domicile, déjà, on fait ce qu'on appelle un diagnostic éducatif. avec où chacun exprime en fait son vécu de l'ABC et des choses par rapport aux différents thèmes des ateliers. Après, où nous, on analyse un peu ce qui a été dit sur ce moment-là pour les orienter sur les différents ateliers. Après, il y a un temps, du coup, après les ateliers, on retourne les voir pour un peu avoir leur ressenti vis-à-vis de ces ateliers-là, voir aussi ce qu'ils en ont retiré. Ces temps d'éducation thérapeutique, c'est quelque chose vraiment qu'on propose, qui n'est pas obligatoire dans le suivi qu'on fait. Hein. C'est vraiment eux s'ils ont envie de venir. Là, les difficultés qu'on a pu avoir par rapport à ça, c'est que les sessions, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on les programme quand on rencontre les personnes pour la première fois. On ne sait pas si ça va être... Alors, on a un ordre d'idée, hein, mais on ne sait pas si ça va être dans 2 mois, dans 6 mois. Enfin, généralement, ça ne va pas... C'est guère plus loin. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent être motivées au moment de la rencontre. Et puis finalement, quand on les recontacte quelques semaines, quelques mois plus tard, peuvent ne pas forcément avoir envie de venir à ces ateliers-là.
Oui, oui.
Après, généralement, voilà, ça se passe bien quand même. Et ils sont plutôt motivés.
Comment vous vivez, comment se travaille la façon d'élaborer le programme avec le patient, donc l'équipe et le patient.
Par rapport au suivi au sens large de l'équipe. Hein.
Oui.
Quand on les rencontre pour la... Enfin, initialement, voilà, la première fois au domicile, on essaye d'être deux professionnels quand on y va, pour justement pas avoir notre regard que vis-à-vis de notre métier, hein, que ce soit d'ergothérapeute pour moi, que ce soit d'infirmière pour Karine que vous avez vue tout à l'heure, que ce soit pour ma collègue assistante sociale. C'est pour ça qu'on essaye d'être en binôme. On retrace un peu l'histoire de l'AVC avec le patient, les difficultés qui peuvent exister après cette problématique de santé-là. Les problématiques qui peuvent exister.
Quelle est l'utilité de faire repasser l'histoire de l'AVC ?
Ça permet d'avoir leur ressenti, de leur vécu aussi, et de voir comment c'est perçu pour eux. On en a aussi... pour nous, c'est aussi, j'ai envie de dire, utile sur la partie diagnostic éducatif pour les ateliers d'éducation thérapeutique. Et puis nous, ça nous permet aussi, alors comme ces bilans-là, ces entretiens initiaux, c'est quelque chose qu'on envoie au médecin traitant de la personne. Ça permet aussi de resituer et de refaire le lien, même s'ils ont le dossier médical. Enfin, voilà. On évoque aussi avec eux les difficultés qui peuvent exister au quotidien, sur quel domaine il peut y avoir des choses où c'est difficile, que ce soit pour s'habiller, pour se laver, pour se déplacer, enfin, toutes ces choses-là. On fait aussi le point sur les intervenants qui interviennent, sur les différentes personnes qui interviennent au domicile. Ce qui nous sert après à élaborer, alors avec eux, hein, nous on n'impose jamais nos objectifs, c'est vraiment une discussion et puis vraiment eux aussi qui décident, mais on élabore un projet de soins et ce qui sur quoi on peut les aider en tout cas. Et ce document-là leur est transmis, alors le temps qu'on le rédige, mais quelques jours, quelques après notre intervention.
Quel commentaire vous feriez sur l'ensemble de votre travail et de votre équipe en termes de de satisfaction, de ce qui vous semble positif et éventuellement de ce qui vous semble insuffisant.
Moi, c'est vrai que je suis, enfin, pour mon côté un peu plus personnel, je suis plutôt attaché au domicile parce que voilà, ça permet vraiment de voir la personne dans son environnement. Ah, oui. et d'avoir cette rencontre.
Oui, vous préférez à ici.
Alors, voilà, pas forcément. Et puis, c'est un autre rythme de travail, c'est une autre expérience aussi que d'avoir voilà, la personne ici en soins, où on va être plus sur l'aspect rééducatif et en collaboration avec la personne pour voilà, récupérer ce qui est possible d'être récupéré. C'est vrai que sur le domicile, on va aussi avoir plus le côté réadaptatif, où ben voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas revenir au niveau physique, il y a peut-être des choses, peut-être que le bras de la personne, ben, elle va être en difficulté pour, quelque chose au hasard, mais pour couper sa viande, mais ça va être plus de mettre des choses en place voilà, pour justement qu'elle arrive à rester à domicile et à se débrouiller au quotidien, que ce soit par une aide technique, que ce soit par une aide humaine, que ce soit en faisant d'une autre façon. Tout va dépendre de la personne et puis de ce qu'elle souhaite aussi.
Oui, c'est au plus près de la réalité de du vécu quotidien, oui. Je comprends, oui.
Moi, ce que je remarque aussi, c'est alors plus, on va dire plus sur mon cœur de métier, c'est qu'en termes, alors que ce soit en termes d'aménagement, que ce soit en termes voilà, d'aide technique, de rééducation ou autre, les fois où ça va fonctionner le mieux, c'est quand la personne, la demande initiale, on va dire, venait d'elle. Alors c'était un peu la même vision que j'avais quand j'ai commencé avec les fauteuils roulants électriques ici. Quand la personne voilà, était acteur de sa situation, de son projet aussi vis-à-vis du matériel ou autre, l'acceptation se faisait plus facilement et l'utilisation derrière aussi, que quand voilà, c'était plus nous qui orientait, rarement, enfin pas vraiment imposé, mais où on prenait plus la décision que la personne finalement.
Oui, oui, quand c'est pas... C'est sûr, quand il y a une dynamique de la personne, ça change tout. Hein. Bon, vous voyez d'autres commentaires à faire ?
Je réfléchis en même temps. Pas forcément. Après, c'est vrai que d'être à l'oral, ça permet voilà, d'avoir plus de spontanéité.
Oui, dans l'échange.
Dans l'échange et tout, que sur l'écrit. Hein.
Oh, ben là, le but de l'entretien oral, c'est déjà de vous présenter comment on travaille. Bon, ben, très bien.
Et puis, ça amène à réfléchir aussi sur les pratiques, sur les pratiques de chacun.
Vous avez des temps de réflexion collectif sur votre pratique ?
Alors nous, on essaie d'avoir, en tout cas au sein même de l'équipe, d'avoir des temps d'échange. À la suite de toute façon des rencontres qu'on a avec les patients pour revenir à ça, on a des temps voilà, en équipe où on rediscute des situations, que ce soit des temps qui soient formels, où on a nos temps de réunion à jour fixe, ou des temps on va dire plus informels, où ça va être de rediscuter entre nous après avoir rencontré la personne, savoir un peu ce que chacun en pense et ce qui peut être fait. Et puis même, même de manière générale, sans parler voilà, forcément d'une situation centrée sur un patient, on a aussi des temps en commun où on réfléchit voilà, à notre pratique, à ce qu'on pourrait améliorer, ce qui fonctionne aussi au sein de l'équipe, enfin toutes ces choses-là.
Très bien, ben nous aurons plaisir à vous retrouver pour la réunion collective. en sachant que jusqu'à présent, nous n'avons qu'un patient, et donc il nous en faut encore trois. Voilà, mais bon...
Ça devrait pouvoir se faire.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt, donc.
À bientôt. Merci.